RFI. À l'écoute de Radio France Internationale, il est 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Arthur Ponchelet.
Et à la une ce matin, des habitants qui manquent de nourriture et de médicaments depuis 6 jours, Diafara Bey est sous le coup d'un blocus des djihadistes du Jnim et vous l'entendrez, les villageois appellent les autorités à les aider. Sidi Touré rempile à la tête de l'Union des Forces Républicaines en Guinée. Le parti a tenu son congrès hier et espère désormais que sa suspension sera bientôt levée. On est à Conakry dans un instant. Dans ce journal aussi, un permis d'exploration d'hydrocarbures inquiète les ONG au Congo. Une mini-série algérienne pour raconter l'émancipation d'une jeune femme. Et puis, dernier préparatif tactique et aucun blessé à signaler, le PSG et l'Inter Milan. Face à leur histoire ce soir et partout dans le monde, les supporters se préparent à la finale de la Ligue des Champions. Depuis lundi, plus aucun véhicule n'entre ni ne sort de Diafara Bey, pas même pour transporter de la nourriture ou des malades. Ce village du centre du Mali est sous blocus des djihadistes du Jnim, mesure en représailles à l'exécution d'une vingtaine de civils par l'armée le 12 mai dernier. Cet embargo pénalise les habitants de Diafara Bey qui manquent de nourriture, mais aussi ceux d'autres localités voisines, exemple à Noubozo, où les habitants sont accusés par les djihadistes de soutenir l'armée malienne. Écoutez le témoignage d'un habitant de Noubozo.
De jour comme de nuit, ce sont les bruits des armes que nous entendons autour de Noubozo. Les djihadistes nous demandent de rendre les armes qu'il y a dans le village et de signer un accord avec eux. Dans le cas contraire, il n'y aura plus la paix et la tranquillité à Noubozo. Nous avons refusé de conclure cet accord. C'est de cela dont on souffre aujourd'hui. La famine est en train de s'installer. Ces 2 derniers jours, au moins 5 personnes sont mortes à cause de la faim. Elles ne pouvaient pas sortir du village à cause du blocus. Tous les jours, on nous dit que le Mali a des hélicoptères, on nous dit qu'il y a des drones, des radars. Que les autorités nous disent si les radars sont là pour leur propre sécurité et non pour celle des populations, qu'elles nous disent la vérité. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les autorités nous apportent des vivres et des médicaments. Nous avons des malades, des blessés par balles, et ils ne peuvent pas sortir du village. Même aujourd'hui, il y a eu des décès. Que les autorités sachent que Noubozo se meurt à cause du blocus, de la faim, de la souffrance. Nous ne savons plus à quel saint nous vouer, alors que notre seul tort, c'est de refuser de trahir notre pays. Que les autorités soient informées que Noubozo est en train de mourir pour le Mali.
Propos recueillis par la rédaction en Mandinkan et en full day de RFI. Face au terrorisme, l'armée nigériane, elle, dit avoir tué 60 djihadistes dans l'état de Borno. Ils ont été visés par des opérations terrestres et aériennes. Le Nigeria, qui affirme aussi avoir tué l'un des personnages clés de Boko Haram, connu sous le nom d'Amir Abu Fatima. Suspendu depuis la mi-mars, l'Union des Forces Républicaines de Guinée a tenu hier son congrès. C'était à Conakry. Sans surprise, Sidi Touré a été reconduit à la tête du parti. Exilé en Côte d'Ivoire, il en a profité pour rendre hommage à Fonike Mengue, Mamadou Biloba et Habib Marwan Camara, tous disparus depuis plusieurs mois maintenant. Il appelle aussi les autorités de transition au dialogue avec la classe politique. Tanguy Biyan, l'UFR espère désormais voir sa suspension levée.
Le parti était suspendu depuis la mi-mars après l'évaluation menée par le ministère de l'administration du territoire. Fodé Baldé, responsable de la communication de l'UFR, espère que ce congrès permettra au parti de reprendre ses activités politiques.
Conformément à ce qui nous a été dit, il avait été convenu que suite à cette organisation, la sanction serait levée. Nous sommes rassurés qu'ils lèveront parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ce qu'ils doivent faire.
Pour autant, la levée de la suspension du parti ne signifierait pas que la voie est dégagée pour la candidature de Sidi Touré à l'élection. L'avant-projet de constitution, présenté en juillet au CNT, comprenait une disposition limitant à 80 ans l'âge pour se présenter à la présidentielle. Et c'est précisément l'âge de Sidi Touré. On ne sait pas si cette disposition a été conservée dans le texte voté par le CNT en avril dernier, car il n'a pas été publié. En tout cas, Bakary Goyo-Zoumanigui, fondateur du parti, s'oppose fermement à cette mesure.
La suite logique d'une transition politique, une transition après un coup d'État militaire, voudrait que toute élection qui va avoir lieu après soit inclusive, qu'on n'élimine personne. C'est le peuple qui choisit.
Lors de son allocution devant les militants, Sidi Touré n'a pas évoqué de possible retour en Guinée. Tanguy Biyan, Conakry, RFI.
En bref, suite de la visite d'Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire, le Premier ministre sénégalais se rend à Bouaké aujourd'hui. Il va notamment y rencontrer la communauté sénégalaise. Hier, il a rencontré son homologue et aussi le président Ouattara pendant 2 heures. Entretien durant lequel les deux hommes ont balayé large coopération économique, diplomatique ou encore enjeux sécuritaires. Nous œuvrons pour une sous-région pacifique, a-t-il dit à l'issue de l'entretien. C'est un écrin incomparable, une forêt qui abrite des gorilles, des éléphants ou encore des tortues et dont la flore est inestimable. Au Congo, le parc national de Kongwa-Tidouli est-il menacé par un projet d'exploration d'hydrocarbures ? C'est en tout cas ce que craignent plusieurs organisations nationales et internationales. Toutes appellent les autorités à renoncer à un projet de décret qui accorderait un permis de 4 ans pour la SNPC, la société nationale et une entreprise privée chinoise, d'autant Amélie Tulet que Brazzaville a accueilli le premier congrès mondial des peuples autochtones et rappelé leur importance dans la préservation des forêts.
C'est une question de cohérence pour l'État, selon Christian Munzeo, coordonnateur national de l'ONG Rencontre pour la paix et les droits de l'homme et de la campagne Publier ce que vous payez au Congo.
Parce qu'on ne peut pas être engagé sur le plan international à vouloir témoigner d'un leadership en matière de protection de l'environnement et dans le même temps avoir une pratique à l'antipode justement de ce type d'engagement. Et donc nous pensons que c'est un double discours. Pour rectifier le tir, nous considérons qu'il est recommandé au gouvernement qu'il y ait une forme de cohérence entre ses engagements et sa pratique de tous les jours.
Car ce n'est pas le premier permis d'exploration dans ce parc en principe protégé, un parc à la biodiversité exceptionnelle et où vivent des peuples autochtones et des communautés qui n'ont pas été consultées, selon Kim Aumonier, responsable suivi et droit au sein de la Rainforest Foundation UK.
Pour nous, s'il n'y a pas d'étude d'impact environnemental, s'il n'y a pas de processus de consentement des communautés qui pourraient être impactés par cette licence. Les processus ne sont pas prêts pour la signature de ce décret.
Les organisations signataires de la déclaration en appellent donc au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Elles lui demandent de ne pas signer ce décret et souhaitent plus largement que toute exploration et exploitation minière soit interdite dans le parc de Kongwa-Tidouli.
Amélie Tulet, la Guinée équatoriale face à une pénurie d'antirétroviraux, médicaments essentiels pour combattre le VIH, le ministre de la Santé évoque les récentes décisions internationales, surtout celle de Donald Trump qui a cessé son soutien à l'OMS. Le président américain dont l'administration a d'ailleurs décidé aujourd'hui de couper son soutien à un programme de recherche pour trouver un vaccin contre le sida. Au moins 6 morts dans le bombardement d'un hôpital au Soudan. D'après l'armée, les paramilitaires ont frappé un établissement d'El Obeid, ville du centre du pays. L'hôpital a même dû fermer ses portes en raison des dégâts, selon une source médicale. 7h38, en temps universel. Elle a 30 ans, est toujours célibataire et n'arrive pas à annoncer à sa famille qu'elle part suivre la course des sardines qui désertent les eaux algériennes. C'est le pitch d'une série diffusée sur Arte, Elle Sardine, réalisée par Zouliha Tahar et coécrite avec Kaouter Hadimi, oscille entre tendresse et humour, Elisabeth Le Quéré.
En Méditerranée, c'est à cause du réchauffement climatique que les sardines rétrécissent.
Zouzou, 30 ans, et toujours pas de mari, décide un beau jour de prendre la tangente. Ingénieure en biologie marine, elle se fait recruter par une équipe scientifique qui travaille sur les migrations de sardines en Méditerranée. L'occasion parfaite pour respirer l'air du large et échapper aux injonctions incessantes de sa famille. Zouliha Tahar.
C'est quelqu'un qui est à un moment de sa vie où il lui arrive une opportunité, un point de bascule en fait très important et qu'elle a envie de saisir, mais elle a peur de la trahison. Enfin, je pense que c'est ça qui est au cœur de la série, c'est est-ce que partir c'est trahir ? Et Zouzou, je pense qu'elle est motivée par cette question-là, est-ce que partir c'est trahir ? Et elle a peur d'être une traîtresse.
J'ai vu une échappatoire, je me suis dit que ça ferait du bien à ma carrière, mais surtout à mon moral.
Tournée à Aïn El Turc, non loin d'Oran, El Sardine mêle acteurs professionnels et amateurs, insère des scènes d'animation onirique et joue sur tous les tableaux pour évoquer la pression familiale et les rôles imposés aux femmes. C'est drôle, piquant, parfois absurde, et filmé entre poésie et réalisme au cœur de la société algérienne d'aujourd'hui.
Elisabeth Le Quéré, et la websérie est disponible sur Arte, YouTube et Instagram à partir du 2 juin. C'est le match d'une vie pour des millions de supporters. Qui du PSG ou de l'Inter de Milan soulèvera la coupe aux grandes oreilles? Réponse ce soir à partir de 19h temps universel. Cette finale de la Ligue des Champions, très suivie en France et en Italie, bien sûr, mais aussi un peu partout dans le monde, et notamment au Maroc, où l'on espère qu'Achraf Hakimi, l'enfant du pays, va ramener la coupe à la maison. Reportage François Imfakataji.
Dans les collines arides d'Agafay, personne n'a raté l'information parue mi-mai dans la presse marocaine. Le joueur du PSG a profité des quelques jours de repos accordés par le club pour venir se reposer dans ce paysage désertique prisé des touristes. Kaoutar regrette de ne pas l'avoir croisé.
J'aurais été vraiment trop heureuse de le voir, mais c'est déjà trop cool qu'il soit venu visiter le désert d'Agafay.
Ahmed possède des plantations d'arganiers dans la région.
Il est venu pour relaxer et pour concentrer sur le match. Parce que le match de finale, c'est un grand match.
Ce soir, sans aucun doute, il supportera
Le PSG. Je souhaite que Achraf Hakimi, et il va gagner la coupe. Achraf, c'est un phénomène au Maroc.
Au Maroc et au-delà des frontières, Mohamed Mougri, vendeur de souvenirs, en sait quelque chose. Sur les 100 maillots d'Hakimi commandés en début de semaine, il ne lui en reste plus que 2.
On est beaucoup détenus avec Hakimi, on a vendu beaucoup de t-shirts.
Ce soir, tout le monde ou presque sera devant le match, pour certains entre amis.
À Marrakech, dans un café, dans une ambiance.
Et pour d'autres, comme ce professionnel du tourisme, pendant les heures de travail, pour ne rien rater des exploits d'Hakimi.
Je vais regarder sur mon téléphone parce que j'ai un travail.
Si le PSG pourrait remporter la première Ligue des Champions de son histoire, Hakimi, lui, ajouterait une deuxième coupe aux grandes oreilles à son palmarès déjà bien riche pour un joueur de 26 ans. François Imferkataji, Marrakech, RFI.
Voilà, PSG Inter Milan, coup d'envoi à 19h, temps universel, soirée spéciale sur la radio du monde. On parle de cette finale de la Ligue des Champions avec nos reporters à Paris et à Munich, et aussi avec les analyses du service des sports de RFI.
Et c'était le journal d'Arthur Ponchelet, 9h42 à Paris, 7h42 en temps universel.